Tout de suite, le journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Macron a présidé ce matin aux Invalides l'hommage national aux deux militaires français tués au Burkina Faso la semaine dernière lors d'une opération qui a permis de libérer les otages. Ils sont morts en héros, a notamment déclaré le chef de l'État. Et puis parce que la libération sanglante de ces otages est venue rappeler combien l'insécurité était aujourd'hui grandissante dans cette région de l'Afrique à l'épreuve des attaques terroristes à répétition, et bien les forces militaires des pays du G5 Sahel et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE ont prévu de se retrouver aujourd'hui à Bruxelles pour trouver ensemble des moyens de lutter plus efficacement contre la menace djihadiste.
Bayer, propriétaire de Monsanto, a été condamné à verser plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à un couple affirmant que l'herbicide Roundup était à l'origine de leur cancer.
Et c'est la troisième affaire consécutive que perd ainsi le groupe allemand aux États-Unis. Les agressions physiques envers les personnes LGBT ont atteint un niveau inégalé en 2018. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Frédéric Gall, directeur général de l'association Le Refuge. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Cannes, une vitrine pour les films présentés, un lieu de légitimation et de compétition, mais aussi un miroir des évolutions du cinéma mondial. On en parlera avec notre invitée, la chercheuse et professeure en sciences de l'information à Paris 1, Joëlle Farchi.
Merci et à tout à l'heure. Parce que depuis quelques années, le terrorisme islamiste aura le plus souvent été porté par la griffe maculée de sang de Daesh. On en avait presque oublié que même au fait de la terreur répandue par l'EI, Al-Qaïda n'a jamais cessé d'exister. Et tout particulièrement en Afrique, cible des djihadistes. À ce titre, la permanence et même l'extension aujourd'hui de la menace est venue brutalement se rappeler à notre mauvais souvenir avec l'opération de sauvetage la semaine dernière de deux touristes français durant laquelle deux soldats ont trouvé la mort. Au total, depuis qu'Al-Qaïda a fait irruption au Sahel, ce sont pas moins de 50 occidentaux qui ont été kidnappés, dont 17 français, parmi lesquels 7 ont perdu la vie. 9 ont retrouvé la liberté. En revanche, une femme reste, elle, encore captive de ses bourreaux, Sophie Petronin, 73 ans, enlevée il y a 2 ans et demi à Gao. Alors, les deux otages français libérés la semaine dernière avaient-ils pris des risques inutiles ou inconsidérés? Jusqu'à quel point la zone du parc animalier dans laquelle ils avaient choisi d'effectuer un safari était-elle déconseillée? Quant aux deux soldats d'élite tués lors de leur opération de libération, leur mission consiste-t-elle à secourir au risque de leur vie des touristes présentés comme aventureux? À toutes ces questions, sinon ces polémiques, les épouses des deux soldats décédés ont tranché la question. Quand l'une répond que son mari a fait son job, l'autre estime que si l'on commence à penser comme cela, alors on ne s'en sort plus. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct des Invalides où depuis ce matin les polémiques sur les raisons de cette intervention ont donc laissé la place à un hommage national aux deux militaires tués, hommage présidé par le chef de l'État Emmanuel Macron.
Et oui, c'est au son de Terre et Mer joué par le bagad de Lanbiwe que les deux cercueils sont apparus, sortant de la cathédrale Saint-Louis, recouverts d'un drapeau tricolore et portés par les membres du commando Hubert, visage masqué par un cache-col, deux cercueils déposés au centre de la cour des Invalides, deux militaires à qui le président de la République a rendu hommage au nom de la nation en insistant sur le sens de leur sacrifice lors de l'opération qui leur a coûté la vie.
Pour sauver la vie des otages, une seule solution. Mener l'assaut sans ouvrir le feu. Le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello n'hésitèrent pas un seul instant, défiant la mort pour sauver des vies, faisant preuve d'une bravoure inouïe. Ils pénétrèrent, armes tenues silencieuses, dans les tentes, pour sauver les vies des nôtres.
De héros, le terme est revenu à plusieurs reprises, deux exemples également a poursuivi Emmanuel Macron.
Ils étaient morts en héros pour la France. Parce que pour eux, rien n'est plus important que la mission, rien de plus précieux que la vie des otages. Et notre pays sent bien que votre exemple nous sauve tous, car il nous maintient à la hauteur de nous-mêmes. Une nation n'est libre et forte que par la fraternité et la solidarité qui l'unit. Une nation n'est libre et forte que d'avoir des héros dont elle doit se montrer digne.
Le président de la République qui a également tenu à saluer ceux qui sont encore mobilisés avant d'affirmer « Nous ne céderons rien dans les combats engagés ».
Merci Steven Goyer en direct des Invalides ainsi qu'à Cyprien de Limerville pour les moyens techniques. Alors avec l'enlèvement de deux ressortissants français au Bénin, puis la mort de deux soldats d'élite dans l'opération qui a conduit à leur libération au Burkina Faso, le dossier sahélien a de nouveau ressurgi non seulement au cœur de l'actualité française mais aussi internationale. Car si depuis 2014, la France a déjà déployé quelques 4500 hommes afin de lutter contre les groupes djihadistes qui opèrent dans cette région extrêmement vaste, l'équivalent de l'Union Européenne, elle ne peut endiguer seule la stratégie d'expansion des organisations djihadistes concurrentes. Et c'est ainsi qu'aux militaires français de l'opération Barkhane s'ajoutent les 12 000 casques bleus de la MINUSMA au Mali, mais aussi, depuis peu, un dispositif militaire transnational, la force conjointe dite du G5 Sahel, coalition des pays de la région. Sauf que tout cela paraît encore dérisoire face à l'étendue du territoire concerné. Plus que jamais se pose donc la question de l'importance de se doter d'une force d'intervention à l'échelle européenne, d'où cette réunion aujourd'hui à Bruxelles des forces militaires des pays du Sahel avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l'UE. C'est une correspondance de Pierre Benazet.
Les Européens estiment avoir prouvé leur engagement complet dans le soutien aux pays du G5 Sahel. Ils mettent en avant l'importance des montants consentis pour soutenir ces cinq pays en termes de développement et de sécurité. Les opérations militaires françaises Barkhane et les missions européennes de sécurité au Mali et au Niger sont désignées pour appuyer la force militaire du G5 Sahel. Les Européens espèrent en retour une plus grande efficacité des pays du G5 Sahel, à qui ils ont répété ce matin leurs préoccupations. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères.
On nous montre la volonté très claire du G5 Sahel de prendre en charge ces contrôles de frontières, cet aspect sécuritaire, tous ces passages qui se font de groupes armés d'un pays à l'autre. Et pour ça, nous devons évidemment répondre que nous allons continuer avec l'Union européenne à aider à la mise en place opérationnelle de ce G5 Sahel, de cette force conjointe. Pas seulement sur le plan militaire, sur le plan aussi policier d'ailleurs. Il y a des éléments de police qui doivent intervenir. Donc c'est, je crois, à se rendre compte de part et d'autre qu'il y a une situation qui s'aggrave et qu'il faut dès lors réagir.
Pour l'instant, 4000 hommes sont engagés dans la force du G5 Sahel et les Européens se félicitent de ce que ces opérations aient repris. Tous attendent que cette force soit pleinement opérationnelle puisqu'elle doit à terme être dotée de 5000 hommes. Son efficacité ne sera réelle pour les Européens que lorsque sera rétabli le contrôle des États et de leurs administrations civiles sur l'ensemble de leur territoire. Mais tous ici souhaitent aussi que puisse être voté le mois prochain aux Nations Unies un mandat renforcé de la MINUSMA pour soutenir la force du G5 Sahel, en particulier pour agir au centre du Mali et dans la région des trois frontières avec le Niger et le Burkina Faso.
Ils sont trois journalistes d'investigation, Geoffrey Livolsi, Mathias Destal du média Disclose, ainsi que notre confrère de la cellule d'investigation de Radio France, Benoît Colomba, devoir répondre à partir d'aujourd'hui à une convocation des services de renseignement français après leur révélation sur les ventes d'armes françaises au Yémen. Une convocation qui potentiellement pourrait déboucher sur une mise en examen. Hier, 17 ONG ont dénoncé les menaces pesant sur la liberté de la presse, tout en rappelant combien les informations révélées étaient, je cite, d'un intérêt public essentiel. Le rapport d'une quinzaine de pages révélé le 15 avril dernier des répertories les armes vendues par la France qui seraient déployées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen, théâtre d'une guerre qui a tué des dizaines de milliers de personnes dont de nombreux civils. Jusqu'ici, la ligne invariablement avancée par les autorités françaises est que ces armements ne seraient utilisés que de manière défensive et pas sur la ligne de front. S'agissant toujours du Yémen, une chaîne de télévision dirigée par un groupe chiite soutenu par l'Iran a annoncé ce matin que les rebelles aussi avaient lancé des attaques à l'aide de 7 drones sur des installations saoudiennes vitales. En revanche, ni la date de l'attaque ni les cibles visées n'ont été précisées. Alors, est-ce là pour les rebelles yéménites une manière de revendiquer l'attaque perpétrée dimanche contre deux pétroliers saoudiens au large des Émirats Arabes Unis ? Impossible pour l'heure de le savoir. Seule certitude désormais, tout le monde craint une surenchère militaire dans le golfe Persique, en particulier depuis l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien. Selon le quotidien New York Times, citant des sources non identifiées de l'administration américaine, le Pentagone aurait présenté au conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump un projet prévoyant le déploiement de 120 000 soldats au Moyen-Orient. Les précisions d'Olivier Poujade.
Ce plan militaire détaillé a été remis jeudi dernier à John Bolton, secrétaire d'État à la sécurité intérieure de Donald Trump, et à la directrice de la CIA, Gina Haspel. Au-delà de la perspective d'envoyer 120 000 soldats dans la région, le Pentagone prévoit de repositionner une batterie antimissile Patriot, après en avoir retiré 4 de la zone il y a quelques mois. Le navire de guerre Arlington, transportant des véhicules amphibies, patrouillera aux abords du golfe Persique, et des hélicoptères de combat viendront compléter cet arsenal défensif redéployé par les États-Unis. En réponse, affirment les autorités, aux manœuvres iraniennes constatées par les services de renseignements alliés, notamment en Irak et en Syrie. Toujours selon les précisions du New York Times, le rapport indique que des groupes de combattants iraniens auraient été repositionnés sur ces deux territoires avec pour mission d'attaquer les positions américaines. Ce plan du Pentagone serait donc un dispositif préventif pour se défendre contre les menaces iraniennes. Des bombardiers B-52 ont également rejoint la base d'Al Udeid au Qatar. Le quotidien américain révèle toutefois qu'un débat au sein du commandement militaire américain existe sur les conséquences d'un tel redéploiement. Un second plan prévoyant l'envoi de moyens supplémentaires serait également à l'étude, mais certains officiels mettent en garde sur le risque de tomber dans le piège iranien. Selon eux, les provocations de Téhéran seraient faites pour provoquer une surréaction américaine.
Le dossier iranien, toujours et encore, ce sera certainement là l'un des très nombreux sujets de discorde au menu de la rencontre prévue aujourd'hui à Sotchi entre Vladimir Poutine et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. À cela, on pourrait encore ajouter la crise au Venezuela, chacun des deux pays s'accusant mutuellement d'ingérence, sans oublier les sanctions imposées par Washington à Moscou après l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Autant dire que c'est en terrain miné que Mike Pompeo s'apprête à devoir jouer un véritable numéro d'équilibriste entre sa fermeté martelée et puis la volonté de rapprochement de son patron Donald Trump. Quelques semaines après les attentats djihadistes qui avaient fait 258 morts dans des attaques contre des églises et des hôtels de luxe, les violences anti-musulmanes se multiplient désormais. Au Sri Lanka, hier, un homme est mort dans des émeutes qui ont enflammé en particulier le nord du pays. Plusieurs groupes armés ont notamment saccagé des mosquées, mais aussi des magasins tenus par des musulmans. Notre correspondant dans la région, Sébastien Farsi, a pu interroger le propriétaire d'une grande usine totalement détruite par les assaillants.
Il y a un an exactement, Ali Faone a ouvert une grande usine de confection de pâtes à Gampola, à une centaine de kilomètres au nord de Colombo. Aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Tout est parti en flammes après l'attaque menée par 200 hommes violents bien organisés.
Ils avançaient très rapidement dans les environs et ont attaqué la mosquée et les commerces tenus par les musulmans. Ils savaient où ils allaient. Ils sont arrivés devant mon usine avec deux camions remplis de pneus. Ils ont mis le feu aux pneus et les ont placés sous les machines. 7 de mes employés se trouvaient à l'intérieur. Ils étaient effrayés et ont fui par une fenêtre située à 7 mètres de hauteur. Et 3 sont blessés et se trouvent à l'hôpital.
Cet homme d'affaires musulman estime avoir perdu 3,5 millions d'euros dans ce saccage, mais il garde l'espoir que ces extrémistes ne gagneront pas.
Au moment d'ouvrir l'usine il y a un an, nous avons reçu des messages islamophobes. Après les attentats du 21 avril, les gens ont commencé à accuser tous les musulmans d'être complices des terroristes. Aujourd'hui, je ne veux pas tomber dans le même raccourci. Je sais que ce sont des extrémistes singalais qui essaient de nous diviser. Et cela ne doit pas arriver.
15 personnes ont pour l'instant été arrêtées par la police, dont un extrémiste bouddhiste. Le couvre-feu est toujours en place dans cette zone du nord de Colombo et les réseaux sociaux sont bloqués dans tout le pays.
Un reportage signé du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farsi. Le calme est revenu ce matin dans la capitale soudanaise après que 5 manifestants et un militaire ont été tués la nuit dernière. Ces incidents sanglants avaient été précédés quelques heures plus tôt d'une percée dans les pourparlers sur la transition politique entre les représentants de la contestation soudanaise et puis les généraux au pouvoir un peu plus d'un mois après la chute sous la pression de la rue du président Omar El-Béchir. Le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance arrive aujourd'hui en première lecture au Sénat, bien déterminé à corriger une copie jugée globalement décevante. Ou quand la Chambre haute à majorité de droite entend faire la leçon au gouvernement, les sénateurs fustigent un manque de concertation, de dialogue pour expliquer la défiance suscitée par un texte largement amendé par les députés. Le texte sera débattu pendant 3 jours donc au Sénat avant un vote solennel mardi prochain. Quand le médiateur de l'énergie s'inquiète des mauvaises pratiques des fournisseurs de gaz et d'électricité qui persistent dans un contexte de progression de la concurrence. Voilà ce qui ressort d'un rapport publié ce matin. Rapport qui pointe tout à la fois des problèmes de facture ou de raccordement, mais aussi des pratiques commerciales trompeuses, voire illégal. Bastien Roch, bonjour.
Bonjour Thomas.
Les litiges entre fournisseurs d'énergie donc et leurs clients auraient ainsi augmenté de 37% en deux ans. Comment expliquer, Bastien, une telle augmentation?
D'abord, à cause des problèmes de facturation. Ça concerne près de la moitié des cas. Cette catégorie de litiges est en hausse de 60%. Seuls les problèmes de raccordement au réseau, certes plus rares, connaissent une telle augmentation. Alors bien sûr, il y a les bons et les mauvais élèves, et à ce jeu-là, c'est le fournisseur italien Eni qui remporte le bonnet d'âne, 253 litiges pour 100 000 contrats en moyenne. C'est deux fois plus que Total Spring, qui arrive en deuxième position, juste devant Engie, troisième. Alors dans ces cas-là, certains plaignants se tournent vers les associations de consommateurs. Gwenaëlle Lejeune est juriste à l'UFC Que Choisir, et elle aussi, elle conseille de plus en plus de clients pour des problèmes de facture.
Les recours des consommateurs en cas d'erreur de facturation sont les mêmes que ceux pour les autres litiges. Tout d'abord, il convient qu'ils s'adressent au service client de leur fournisseur d'énergie, de préférence en lettre recommandée avec accusé de réception, afin de se ménager la preuve de cette saisine. Ensuite, s'ils n'ont pas de réponse positive, notamment dans un délai de 2 mois, ils ont la possibilité de s'adresser aux médiateurs de l'énergie ou alors de faire appel à des associations locales de consommateurs.
Autre constat de la part du médiateur de l'énergie, le nombre de fournisseurs a explosé ces dernières années. On en comptait à peine 12 il y a 5 ans, ils sont plus d'une trentaine aujourd'hui. Une concurrence accrue qui s'accompagne de mauvaises pratiques toujours plus nombreuses. Entre les offres pas aussi vertes qu'elles le prétendent, les fausses promotions, les démarchages illégaux et autres pratiques commerciales douteuses, il faut absolument, nous dit le médiateur, remettre de l'ordre dans tout ça.
Merci Bastien Roch. Lorsque Bayer avait choisi l'an dernier de racheter le spécialiste américain des désherbants et semences Monsanto pour 63 milliards de dollars, le groupe allemand ambitionnait à travers ce mariage historique de nourrir une population mondiale croissante grâce à l'agrochimie. Sauf que si plus un jour ne se passe désormais sans que le nom de Bayer ne fasse l'actualité, c'est généralement plutôt pour acter un nouveau revers judiciaire. Hier, le géant a été condamné à verser plus de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à un couple affirmant que l'herbicide au glyphosate Roundup était à l'origine de leur cancer. Alors, traditionnellement, il se trouve que depuis plusieurs années, tous les troisièmes samedis du mois de mai, des marches sont organisées dans une quarantaine de pays contre les industries phytosanitaires et en particulier Monsanto. Or, à 4 jours de cette prochaine marche mondiale, donc, c'est peu de dire que les nuages qui s'accumulent aujourd'hui sur le groupe allemand redonnent de l'espoir aux organisateurs. Je vous propose d'écouter Marion Nguyen de Campagne Glyphosate, l'une des organisatrices de la marche parisienne samedi prochain. Elle répond à Véronique Robérotte.
On a vu aujourd'hui 3 procédures aux États-Unis qui ont condamné Monsanto. Ces 3 procès, c'était des plaignants qui étaient atteints de lymphome non-Hodgkinien. Donc on a eu plusieurs millions de dommages et intérêts de condamnation. Et hier, jusqu'à 2 milliards de dollars de condamnation pour ce couple de septuagénaires. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, il y a plus de 13 000 plaignants aux États-Unis. Si on a une cascade de procès, ça pourrait vraiment mettre fin finalement à Bayer, dans le sens où l'action en bourse prend vraiment un coup avec ces condamnations multiples. C'est-à-dire que si aujourd'hui Bayer était revendu, il pèserait moins en bourse que le prix du rachat de Monsanto. C'est-à-dire qu'avant le rachat de Monsanto, Bayer était à peu près à 130 milliards d'euros. Aujourd'hui, il n'en vaut plus que 54 milliards, sachant qu'il a racheté Monsanto à 56 milliards.
Marion Nguyen de Campagne Glyphosate, elle répondait à Véronique Robérotte. Je le disais dans les titres, les agressions physiques envers les personnes LGBT ont atteint un niveau inégalé en 2018. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Frédéric Gall, directeur général du Refuge en direct et en duplex de France Bleu Hérault. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Première question, monsieur Gall. Votre association, Le Refuge, née en 2003, du constat que certains jeunes LGBT se retrouvaient à la rue, soit parce qu'ils avaient été chassés par leurs parents, soit parce que le climat familial était devenu à ce point infernal qu'ils préféraient s'enfuir. Aujourd'hui, votre mission principale reste-t-elle l'hébergement ou bien a-t-elle évolué vers davantage, par exemple, d'accompagnement psychologique ou de prévention du fait de la multiplication des agressions physiques ?
Je dirais les deux, mon capitaine. Premièrement, c'est l'hébergement, évidemment, puisque c'est la notion même de l'existence du refuge. Mais l'hébergement ne peut pas aller sans être accompagné d'un accompagnement social, psychologique, réinsertion. Parce qu'au-delà de l'hébergement, ce sera un hôtel, et nous, on est sur un accompagnement beaucoup plus global, et que l'un ne va pas sans l'autre.
Alors l'homophobie, la transphobie se portent bien en France. Selon l'étude présentée aujourd'hui, une personne LGBT sur 6 dit avoir été agressée récemment. 7% rapportent des violences physiques au cours de l'année écoulée. Les agressions physiques envers les personnes LGBT ont atteint un record en 2018. On parle d'une année noire, 231 faits signalés. Selon vous, vous qui côtoyez l'homophobie, la transphobie depuis plusieurs années au quotidien, est-ce que c'est l'homophobie qui progresse ou la tolérance à l'égard de l'homophobie qui régresse ?
Alors je dirais qu'il faut faire attention par rapport aux chiffres, parce que si on prend nos chiffres à nous, effectivement, et que ce soit les chiffres de SOS ou nos chiffres du refuge, on est sur une... Enfin, si on écoute ça, on se dit, mais on va dans quel monde? Je pense qu'il faut aussi se rendre compte que l'homosexualité est de plus en plus visible, qu'elle est de plus en plus parlée, et qu'on encourage aussi beaucoup plus les personnes à porter plainte, à faire des démarches auprès de la loi pour pouvoir être protégées. Et que forcément, cette visibilité amène aussi une réaction par rapport à ça. Si je prends l'exemple du refuge, les jeunes sont de plus en plus accueillis chez nous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de jeunes rejetés? Je pense pas forcément. Je pense qu'il y a plus de jeunes qui vont parler de leur homosexualité. Je pense qu'il y a plus de jeunes qui vont se sentir libres de pouvoir évoquer le sujet, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et que la structure étant aussi identifiée, forcément, elle est beaucoup plus sollicitée.
Ces jeunes, vous les accueillez depuis 2003. Ce sont des jeunes en rupture familiale à cause de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Est-ce qu'il y a un profil type de jeunes que vous hébergez ou cela concerne tous les milieux sociaux, toutes les cultures ?
Tous les milieux sociaux, toutes les cultures, toutes les religions, toutes les catégories socioprofessionnelles. On n'a pas de spécificité. Alors après, de manière globale, on a effectivement un reflet de la société française, donc des classes moyennes, mais on a aussi des classes qui sont plutôt défavorisées, mais aussi des classes qui sont très aisées et qui pour autant, eh bien, soit chassent leur enfant, soit c'est beaucoup plus feutré que ça, mais en tout cas, ce n'est pas plus accepté.
L'étude dont je vous parlais pose une question. Qui agresse les personnes LGBT? Ce sont des hommes jeunes qui agissent en groupe. Qu'est-ce que cela dit de l'homophobie ?
Ben, l'homophobie, il faut remonter à l'origine de l'homophobie. L'homophobie, c'est pas simplement d'abord une agression physique. On peut imaginer ça, mais une fois qu'on a dit ça, on ne fait qu'une partie du sujet. Et si on veut être vraiment en profondeur dans le sujet, c'est l'agression physique, c'est une manière de se comporter, c'est un rejet, c'est une mise à l'écart d'une personne parce qu'elle a une orientation sexuelle différente ou une identité de genre différente de celle qu'on imagine, de celle qu'on fantasme en tout cas. Et ces chiffres-là disent surtout qu'il faut travailler en amont, certes sur la prévention, sur la discussion évidemment, mais ça suppose aussi de travailler beaucoup plus concrètement sur la formation, sur comment on fait pour prendre en charge ces personnes-là et comment aussi on explique ce que c'est que l'homosexualité et l'homophobie, parce que beaucoup de personnes imaginent ce que c'est et non pas dans la réalité.
Il y a une question polémique, notamment depuis l'agression de Julia, transgenre, en marge d'une manifestation anti-Bouteflika à Paris. Les hommes d'origine immigrée seraient-ils plus concernés par l'homophobie et la transphobie ? Vous le savez, en France, alors les statistiques ethniques sont interdites. L'étude a donc contourné cette interdiction en invitant les victimes à décrire librement les caractéristiques, notamment physiques, de l'auteur des violences qu'elles ont subies. 2% décrivent une personne de couleur noire, 4% de couleur blanche, 6% une personne arabe ou maghrébine. Comment est-ce que vous interprétez ces chiffres ? Est-ce qu'ils vous surprennent déjà ?
Par rapport aux jeunes qu'on accueille chez nous, de manière générale, on accueille toute origine, toute nationalité, plus de 20 nationalités qui sont accueillies. On a une population de migrants qui grandit absolument énormément, puisqu'on a de plus en plus de jeunes qui nous contactent. Et Julia, on la connaît très bien, puisqu'elle a postulé pour être bénévole d'abord chez nous, et puis elle est venue plusieurs fois à la rencontre des jeunes. Il faut aussi se rendre compte que par rapport à certaines cultures, ça reste un sujet qui est compliqué. On est dans des sociétés où on a, sur certains sujets, pas mal évolué, mais sur d'autres, on est encore en difficulté réelle, c'est-à-dire d'appréhender la question de la sexualité, la question de l'homosexualité, et dans différentes cultures, que ce soit les cultures en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est, mais aussi dans d'autres endroits du monde, on est en difficulté par rapport à ça. On est en difficulté et beaucoup de pays qui condamnent l'homosexualité, que ce soit la condamnation à la peine de mort ou de la condamnation tout court, sont des pays qui utilisent l'argument religieux.
Ce sont des pays musulmans, pour dire les choses.
C'est clair, c'est un fait, hein, c'est pas un jugement. Et de dire que Julia s'est fait agresser par des personnes qui étaient maghrébins, mais qui étaient effectivement des personnes maghrébines ou des personnes d'origine musulmane, c'est pas une agression ni du racisme, c'est un fait concret. Et les jeunes qu'on accueille chez nous sont des jeunes qui sont peuvent être catholiques, peuvent être musulmans, qui peuvent être d'origine, pour le coup, française au sens culturel du terme, mais aussi qui ont des fois des origines autres. Et encore une fois, ce n'est pas du racisme, c'est un fait, c'est concret, ce que nous avons. Et les jeunes qui sont dans ce cadre-là ont beaucoup plus de mal à vivre leur homosexualité, ou en tout cas à arriver à le faire cohabiter avec une culture, une tradition, une religion.
On terminera par ces mots. Merci Frédéric Gall, directeur, je le rappelle, général de l'association Le Refuge, d'avoir été donc en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Héros. Merci également à Antoine Marette. Et puis je précise que la lutte contre l'homophobie, justement, ce sera l'objet du grand reportage de la rédaction ce soir, à écouter à partir de 17h sur France Culture. Reportage signé Fiona Mogadam et réalisé par Annie Bro. Un mot de météo. Grand reportage, bien sûr, vendredi sur France Culture. Un mot de météo pour terminer, avec encore du soleil sur la majeure partie du pays, même si une petite instabilité est à prévoir sur la Corse et l'extrême sud-est. Quant aux températures, elles seront généralement comprises cet après-midi entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.